Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je reçois Charles Persona, un habitué de l'émission qui était venu déjà pour évoquer avec nous un livre, un travail historique sur un empereur d'origine cappadocienne, si je me souviens bien, Nicéphore Phocas, qui avait reconquis Antioche et qui s'était enfoncé dans ces terres de haute Mésopotamie, mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui, vous êtes aussi haut fonctionnaire, bonjour Charles.
Bonjour Sébastien.
Alors vous êtes chargé de mission auprès de l'Œuvre d'Orient, une association que nous soutenons beaucoup. Nous vous avons reçu aussi pour évoquer le travail de cette formidable association que beaucoup de gens connaissent. J'avais reçu Monseigneur Gollnisch aussi qui était venu évoquer un livre avec nous, et puis ses nombreux voyages, on l'a encore vu récemment à Istanbul en Turquie. Nous avions monté ensemble ces journées sur le patrimoine à l'Institut du Monde
oui,
Arabe.
Beau souvenir.
Hein, il y a quelques années, on avait lancé pas mal de projets ensemble, et vous avez été membre du conseil scientifique de cette très très belle exposition sur les chrétiens d'Orient à l'Institut du Monde Arabe, je crois qui a marqué les esprits et qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers d'entrées.
Oui, c'était un très beau succès et ça a mis au jour l'intérêt du grand public pour cette civilisation que vous défendez dimanche après dimanche dans cette émission.
Alors j'ai l'impression que le christianisme oriental sort un petit peu de sa niche confessionnelle. Ça sentait un peu le renfermer, hein, il y a quelques années tout de même. Et j'ai l'impression que par de grandes expositions, de grandes publications, nos travaux respectifs, alors avec toute la communauté d'universitaires, d'auteurs, de voyageurs, de photographes. Voilà, j'ai l'impression que ça bouge et que le regard change un petit peu.
Oui, je pense qu'il est très important que de grandes institutions publiques se soient associées à ce travail de mise à jour, effectivement, de cette civilisation du christianisme oriental. Ça a été le cas de l'Institut du Monde Arabe, ça a été le cas de la Bibliothèque Nationale de France, ça a été le cas également d'autres institutions publiques, et on l'espère qu'à l'avenir, que ce sera encore davantage le cas notamment du Louvre. Et je crois effectivement que ça a le grand avantage de montrer que c'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine chrétien, certes, mais un patrimoine commun de l'humanité, que ce patrimoine du christianisme oriental, et qu'il s'adresse effectivement à tout un chacun. Et c'est ce tout un chacun qui est venu nombreux admirer les œuvres qui étaient présentées à l'Institut du Monde Arabe.
Si je me permets une petite incise, c'est que je sais que vous y êtes très sensible, comme l'institution pour laquelle vous travaillez sur votre temps à vous, hein, donc c'est en plus de votre métier de haut fonctionnaire, l'Œuvre d'Orient, c'est que la politique finalement ne correspond pas pour définir les chrétiens d'Orient. Vous savez, souvent on a eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Maintenant on le voit régulièrement, c'est manipulé, c'est utilisé. Vous nous parlez d'humanité, vous nous parlez d'humanisme, vous nous parlez de patrimoine commun.
Oui, je pense que c'est vraiment important. Ça dépasse les questions politiques, évidemment. Ça dépasse le monde des croyants et ça va au-delà. Et je pense que le sort qui a été réservé à certaines de ces communautés a touché l'ensemble de la population française et l'ensemble de la population européenne. Pourquoi ? Parce que l'on sent bien que se joue là, dans la présence de ces communautés, quelque chose qui a trait à la respiration des sociétés du monde arabe. De la même manière que il est si important pour nous, en France, que les communautés juives se sentent bien, par exemple, parce que c'est un signe de la bonne santé de notre société, et que lorsque l'on voit des juifs partir de France parce qu'ils ne s'y sentent plus bien, on peut s'interroger sur la santé de notre société. De la même manière, la présence ou le départ des communautés chrétiennes sont un signe de la bonne santé ou non des sociétés arabes. Et je pense que tout le monde l'a bien compris et que ça dépasse le simple cadre confessionnel.
Une sorte d'indicateur qui nous permettrait de suivre un petit peu le...
Oui, de baromètre.
De baromètre, voilà. Vous parlez de pays, on a évoqué, on va revenir sur l'Égypte et le Liban, parce que vous avez été l'auteur d'un excellent rapport qui a été rendu récemment auprès du président de la République sur le patrimoine des chrétiens, surtout le réseau éducatif des écoles chrétiennes. Mais avant cela, je voudrais vous demander vos impressions sur l'Irak. Vous êtes allé dans le nord de l'Irak et vous êtes allé à Mossoul récemment.
Quand on va à Mossoul même, dans les ruines de cette ville jadis si belle, on est d'abord abasourdi par la violence de la guerre, abasourdi par l'immensité des destructions, cette ville morte aujourd'hui qu'est la vieille ville de Mossoul, avec ces tas de décombres qui nous immanquablement nous font penser aux villes suppliciées de la Seconde Guerre mondiale. À côté de ça, on est toujours frappé et admiratif lorsque l'on voit dans la plaine de Ninive des gens qui reviennent, qui reconstruisent, qui y croient, qui font revenir leur famille, parce qu'une chose est de revenir, mais une autre chose est de faire venir ses enfants, qui vont reconstruire l'église, l'école, la maison familiale. Et ça, je dois dire qu'on est très admiratif, très ému de voir cela. Alors, on était en Irak avec une équipe de la Bibliothèque nationale de France, pas à Mossoul, mais dans le nord de l'Irak. Et là, on a pu aussi voir les grands fonds de manuscrits qui sont conservés dans les monastères du nord de l'Irak et réfléchir avec cette institution publique magnifique qui est la Bibliothèque nationale à ce que l'on pouvait faire pour venir en aide à la conservation et à l'étude de ces fonds, grâce également à ce centre que nous avons créé, vous le savez, au Liban, de restauration de manuscrits à Charfeh et qui est ouvert à tous les manuscrits de la région. C'est un peu l'hôpital de tous ces manuscrits qui sont les témoins irremplaçables et millénaires de toutes ces communautés chrétiennes de la région.
Dans la présentation de l'émission, nous faisions un petit rappel d'une exposition qui avait eu à la BNF, la vieille BNF, hein, je crois bien, dans le bâtiment de la rue Richelieu, sur ces manuscrits irremplaçables. Alors c'était la figure du père Najib à l'époque qui était venu dans cette émission aussi, qui avait sauvé une partie de ces fonds importants de Mossoul puis de Karakoch avec l'arrivée de Daesh. Il faut quand même rappeler l'importance de l'expertise française, si je puis me permettre, faisons un petit peu de cocorico. C'est que la BNF est à la pointe de ses qualités de restauration, de numérisation, et que l'argent public aussi sert à aller dans des pays compliqués, dans des zones de guerre, pour sauver un tout petit bout de patrimoine de l'humanité.
Oui, et c'est vrai que cette institution a été engagée dès le début des grandes destructions de 2014 pour réfléchir à ce qui pouvait être fait pour sauver ce patrimoine manuscrit qui, rappelons-le, est essentiel pour les communautés parce que ce sont des communautés qui ont vécu souvent discrètement et donc elles ne se caractérisent pas par des monuments comme nous avons nos églises et nos châteaux en France. Ce qui est le cœur du patrimoine de ces communautés sont bien souvent précisément ces manuscrits qui ont permis la transmission et qui ont permis aux communautés elles-mêmes de savoir qui elles étaient. Ce sont des fonds qui sont un peu le cœur battant de ces communautés. Et c'est vrai que la Bibliothèque nationale a joué un rôle très très important. Plus largement, on peut saluer le rôle que la France depuis quelques années a joué pour faire prendre conscience à l'opinion internationale du fait que quand on détruisait une église, un temple antique à Palmyre, etc., il s'agissait d'un patrimoine commun et qu'il fallait qu'on s'engage pour cette question. Et vous savez que la France a été à l'origine de la création de la fondation Alif, qui est une fondation pour le patrimoine en danger qu'elle a créée avec d'autres États, des États du Golfe notamment, mais aussi le Japon, mais aussi la Chine, et qui est en train de se mettre en marche et dont une des premières missions sera aussi de restaurer le patrimoine des communautés chrétiennes yézidis en Irak. Et dans mon rapport que vous avez eu la gentillesse de citer, je fais toute une liste de propositions de monuments qui pourraient être restaurés demain, dans les années qui viennent, par Alif. Donc, on a aujourd'hui les instruments, on les a mis en place et donc il faut qu'on s'en serve.
Alors, rappelons que cette fondation Alif a été lancée à l'initiative de la présidence précédente, François Hollande, avec un soutien appuyé de l'institution, de l'Institut du Monde Arabe, pardon, qui a été repris ensuite par les diplomates et qui ont fait cette fondation, voilà, qui commence à faire son travail, donc avec une base d'argent public français pour la préservation du patrimoine dans les zones de guerre. C'est-à-dire comment on anticipe des destructions, donc ça veut dire faire une cartographie avec une, comment dirais-je, vous le savez aussi bien que moi, avec des techniques de reconstitution en 3D. Voilà, peut-être en cas de destruction, d'anticiper pour une éventuelle reconstruction.
Oui, mieux connaître grâce aux techniques que vous citez, mieux connaître aussi grâce aux fonds d'archives que l'on a, parce qu'on a beaucoup de choses, effectivement. Et puis ensuite, quand le pire est arrivé, essayer de restaurer et de le faire dans les meilleures conditions déontologiques, scientifiques possibles. Et là, on a vraiment un instrument très, très intéressant qui travaille main dans la main avec l'UNESCO. Et je pense qu'on aura rapidement, parce que c'est la volonté du président Tom Kaplan de cette fondation et de son directeur exécutif Valérie Frelon, d'avancer très vite pour avoir des résultats concrets.
Charles Persona, vous avez traversé Mossoul, vous avez marché dans ce vieux centre de Mossoul. Qu'est-ce qui va arriver ?
Il est bien, bien difficile de le dire aujourd'hui. On sent une très forte tension encore dans la ville, enfin il m'a semblé. On sent que les quartiers périphériques ont tendance à revivre, mais avec un quadrillage très, très net. Les chrétiens ne veulent pas revenir pour le moment, il faut être clair. Hein. Mais voilà, je pense que si la sécurité s'installe, si le gouvernement actuel, le nouveau gouvernement irakien arrive à construire un dialogue avec toutes les parties en Irak, qu'on peut espérer que cette stabilité amène les communautés diverses qui faisaient l'âme de Mossoul, l'esprit de Mossoul à se réinstaller. Nous, on va y participer avec Alif, notamment, et l'œuvre d'Orient, sans doute en reconstruisant des églises, parce que ça peut sembler un peu... Vous voyez, moi, quand je suis allé en Irak, je me suis dit... Finalement, est-ce que c'est vraiment la chose la plus urgente ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'abord d'eau, d'électricité, que sais-je ? Et quand vous en parlez avec les gens sur place, ils disent « Mais attendez, pas du tout. Nous, on a besoin qu'on reconstruise notre église. » Parce que c'est le lieu communautaire, c'est le lieu qui marque l'esprit de notre communauté. Et c'est cela qui fera revenir les familles. Et c'est ça qui manifestera, d'une certaine manière, le retour à une vie normale. Donc difficile de faire des pronostics, mais en tout cas, faut pas se décourager devant ces amas de ruines et il faut aider de la manière la plus utile possible à reconstruire.
Précisons que tout ce travail de cartographie ne concerne pas uniquement que le patrimoine chrétien.
Non,
il concerne le patrimoine dans son ensemble.
Hein, c'est ça.
Aucune ambiguïté là-dessus.
Non, aucune ambiguïté. Alors les Émirats Arabes Unis avec l'UNESCO se sont lancés dans la restauration de la mosquée El Nouri, qui est la grande mosquée emblématique du centre de Mossoul, entièrement détruite. Il y a des mausolées chiites qui vont être reconstruits, des templiers zidis, des églises chrétiennes. Peut-être, même s'il n'y a plus de communauté juive, une synagogue également, pour montrer la diversité, justement, la mosaïque qu'a été Mossoul. Et on l'espère que Mossoul sera demain.
Un autre aspect, dans vos propos, c'est ce retour des chrétiens à Karakoche, par exemple. Vous êtes passé dans ces villages de la plaine de Ninive. Alors, on recevait, il y a quelques semaines, Fraternité en Irak, et qui nous racontait la restauration du mausolée de Mar Benham, par exemple. Donc, ça fait partie aussi de ces initiatives. Vous avez vu les chrétiens revenir dans la plaine de Ninive ou pas?
Oui, et effectivement, on a vu avec ce mausolée restauré de Mar Benham comme un symbole de ce retour. Évidemment, c'est plus facile dans les villages où il n'y avait que des chrétiens que dans les villages mixtes. Mais même dans les villages mixtes, on a été, je pense à une soirée qu'on a passée à Bartella, et bien la vie reprend. Et vous vous dites vraiment quel courage, parce que on a dîné chez le diacre du village et qui avait passé quand même des années dans les camps autour d'Erbil à s'occuper de sa communauté. Et voilà, et on sentait malgré tout ça, malgré la dureté de la vie, une espèce de joie profonde et une énergie et un courage qui sont confondants.
D'être chez soi, sur sa terre, dans son berceau.
Oui, d'être chez soi et de se retrousser les manches pour croire qu'un avenir est possible sur cette terre.
Alors, chaque personnage évoquait en introduction un rapport que vous avez fait à la demande du président de la République, donc qui concerne la partie qui nous intéresse, le réseau éducatif des écoles chrétiennes. C'est quelque chose qui est assez mal connu, me semble-t-il. Autant pour le Liban, je crois qu'il y a 43 écoles, si je me souviens bien de quelques chiffres. Mais sur l'Égypte, j'étais étonné de voir cette partie-là.
Oui,
on oublie
que dans tout le Moyen-Orient, je reviens juste un instant sur cela, mais dans tout le Moyen-Orient, vous avez des écoles des communautés chrétiennes qui sont un véritable service rendu à toutes les sociétés arabes, puisqu'elles accueillent non seulement des élèves chrétiens, mais en gros, 60% des élèves sont musulmans. Et parfois, 98% quand il s'agit de Gaza, ou même j'étais à Baalbek, les élèves sont chiites dans les écoles chrétiennes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un service que ces communautés chrétiennes offrent à l'ensemble de la population, et c'est d'autant plus un service qu'elles le rendent en langue française. Alors, ce qui rejoint l'intérêt de la France, mais qui rejoint ce sont les responsables des écoles, on peut parler de l'Égypte, par exemple, qui le disent, par la langue française, on arrive à développer ce qui est si important dans le monde arabe, l'esprit critique. Par la langue française, les trois mots de notre devise, liberté, égalité, fraternité, sont transmis par la langue française également, et ça peut paraître plus paradoxal quand on écoute ça en France. Eh bien, il y a la question de la laïcité qui est aussi transmise. Alors, la laïcité, ça ne veut pas dire une laïcité qui serait anti-religieuse, c'est pas ça, mais une séparation de ce qui concerne le politique et de ce qui concerne le religieux.
Donc, vous voulez dire qu'au Proche-Orient, les écoles de confession chrétienne sont porteuses de cette laïcité qui nous tient à cœur ?
Absolument. Absolument, et d'ailleurs c'est revendiqué par un certain nombre de directeurs et de directrices d'écoles. Je dis directrices aussi parce que moi j'ai été particulièrement touché, il faut bien le dire, par ces religieuses de choc que l'on voit à la tête de réseaux d'écoles, tenant ça de main de maître avec à la fois une grande énergie, une grande attention. Pour prendre un exemple égyptien qui m'a beaucoup touché, j'ai été à l'école d'Abbassier. Ce sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul au Caire. Et là, vous avez quelques religieuses qui enseignent en français, enfin qui tiennent une école, elles n'enseignent pas seules, mais qui tiennent une école en français et qui accueillent des petites filles qui sont des petites filles des chiffonniers, des familles de chiffonniers du Mokattam, du plateau au-dessus du Caire.
Des familles très pauvres.
Des familles très très pauvres. Et vous voyez, vous arrivez dans cette école, ça respire la joie, et vous êtes accueillis par la chorale de l'école, les petites filles avec des grands yeux magnifiques, et il y a une grande beauté à ça. Et vous savez que l'après-midi, ces petites filles vont retourner dans leur famille, dans cette dure vie que connaissent leurs familles, mais qu'elles ont tous les matins ce havre grâce à ces religieuses où elles apprennent, où elles reçoivent une éducation complète, et elles vont pouvoir sortir de la misère dans laquelle elles sont grâce à cette éducation. Et là, c'est vrai que le dévouement de ces religieuses est absolument admirable. Alors c'est vraiment un beau souvenir de ces différents voyages. Et partout, vous avez effectivement toute cette communauté éducative très engagée dans ces écoles chrétiennes. Et je pense que la France doit davantage les soutenir. Pour deux raisons. D'abord parce que l'enseignement se fait en français, la langue française est apprise, et donc pour nous c'est essentiel, ça permet de maintenir le lien à long terme avec ces pays. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sont des écoles de bonne qualité. Dans un monde arabe, on ne peut pas se le cacher, où l'enseignement public a beaucoup souffert, où vous avez aussi un secteur privé, mais parfois extrêmement cher, très compétitif, et donc il y a toute une partie de la population qui ne trouve d'éducation de qualité que dans ces écoles. Et pour nous, pourquoi c'est important ? Parce que ce sont les seules écoles où grandissent côte à côte des chrétiens et des musulmans. Ce sont les seules écoles où grandissent côte à côte garçons et filles, pauvres et riches. Et donc, ce sont ces écoles qui sont le ferment de la stabilisation de ces sociétés et de la construction de la paix, de la pacification de ces sociétés. Elles sont un maillon indispensable pour la construction de sociétés apaisées. Et donc, la France a tout intérêt à s'engager aux côtés de ces communautés éducatives, parce que nous avons tout intérêt, vous le savez bien, à ce que l'autre rive de la Méditerranée soit le plus pacifié possible.
Au-delà de votre métier de fonctionnaire, Charles Persona, on vous sent complètement passionné par le sujet, passionné par et pris par cette émotion qui vous a saisi lorsque vous avez rencontré tous ces interlocuteurs.
Oui, oui, je l'ai été. Le sujet de l'éducation, évidemment, est un sujet de passion parce que on voit l'avenir d'une société se faire hein, à travers cela. Et puis, j'essaye de le faire transparaître par ce que je dis là, mais tant de belles rencontres. Tant de rencontres avec des gens admirables dans des circonstances difficiles et qui se donnent corps et âme pour l'éducation des générations qui montent. Et ça, c'est quand même très, très beau.
On a envie d'être optimiste en vous écoutant.
Oui, et je trouve qu'en visitant ces écoles, on le devient. Parce qu'on se dit, bon, c'est vrai, on voit la fragilité de ces sociétés, le Liban, pas de gouvernement aujourd'hui, toujours pas de gouvernement, une situation dont on ne sait pas ce qu'elle sera demain. Et puis vous rentrez dans ces écoles comme des havres, et là vous voyez des élèves qui travaillent, vous voyez des bibliothèques bien ordonnées, vous voyez l'investissement aussi à la fois des professeurs mais aussi des familles qui sont derrière et qui parient sur l'éducation, et vous dites bon, voilà. Je ne sais pas ce que seront ces états demain, mais je sais que les enfants qui seront passés par ces écoles auront en main de quoi construire leur avenir. Donc effectivement, c'est assez enthousiasmant de voir cela et on a envie de les aider.
Qui sont ces directeurs, ces directrices ou même ces professeurs que vous avez rencontrés ?
Alors ce sont soit des religieux, de moins en moins de religieux français, hein, quasiment plus, hein, voilà, parce que crise des vocations en France, et puis voilà. Donc souvent des religieux, et puis parce que la crise des vocations ne sévit pas qu'en France, mais également au Moyen-Orient, de plus en plus des laïcs qui ont pris le relais.
Des professeurs que la France envoie toujours ?
Alors,
ou des recrutés
assez
locaux ?
Assez peu. Dans cette région, la France envoie assez peu de professeurs. Elle fournit un effort de formation, mais qui mérite d'être développé, parce que restrictions budgétaires obligent, on a beaucoup concentré ces formations sur les écoles qui suivaient le programme français, le programme de l'éducation nationale française. Vous en avez en Égypte et au Liban. Mais, en fait, vous avez au-delà de ce premier cercle, plein d'écoles, soit bilingues, soit qui enseignent le français, et donc ce sont ces écoles-là aussi qu'il faut aider.
Nous étions en compagnie de Charles Persona ce matin. Merci Charles.
Merci Sébastien.
Vous reviendrez nous voir ?
Absolument.
Nous retrouvons maintenant le service protestant, mais avant cela, je voudrais remercier Dany Journeau, Claire Poinsignan et Olivier Dupré pour la réalisation et la technique de cette émission. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Thank you.